Voilà, Seigneur, te remercions pour ta présence ce matin déjà et pour toutes les paroles qui ont été dites. Seigneur, nous pouvons percevoir lorsque tu parles, Seigneur, parce que tu nous nourris, tu réjouis nos cœurs, Seigneur, et tu nous donnes à manger. C'est fondamental dans la vie d'un chrétien, Seigneur, et tu pourvois à cela, pas seulement le dimanche, jour après jour, Seigneur, tu es présent. Comme il a été rappelé, Seigneur, et tu nous bénis. Et la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir, c'est de te savoir en nous et nous en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on lise un petit verset dans Deutéronome, au chapitre 33. Verset 29. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Que tu es heureux, Israël. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Si je prenais chacun individuellement et que je te demandais, est-ce que tu es heureux ce matin? Je suis sûr que certains qui ont rapidement fait oui me diraient finalement non. Et certains qui ont fait je ne sais pas ou non, je ne suis pas heureux, finalement me diraient oui. C'est bizarre tout ça. Mais si je vous demandais, est-ce que vous voulez être heureux? Alors vous me direz, mais oui, bien sûr, je veux être heureux. Je n'aspire qu'à ça. Le luxe, le calme, la volupté. Invitation au voyage, Baudelaire. On a tous une idée comme ça de ce que c'est que d'être heureux. On a tous un idéal dans notre tête, même les chrétiens. Je suis ou je serai heureux si. Et alors on met une liste de choses. Le problème, c'est que souvent, on est dans un imaginaire. On est dans un autre monde. On demande à être heureux en fonction de choses dont on pense qu'elles vont nous rendre heureux, les choses qui vont nous faire vivre bien, les choses qui vont nous placer dans du coton, où on sera douillé, où jour après jour, on sera heureux de se lever le matin, on sera heureux d'aller prendre son petit déjeuner, de voir sa femme, de voir ses enfants, de voir son époux, d'aller à son travail, et où là tout ira bien, les gens seront sympathiques et nous diront des gentilles choses. Et nous-mêmes nous dirons de gentilles choses aux gens qui sont avec nous. Et ainsi, mon patron sera heureux lui aussi. Et ainsi, la vie sera douce et coulera, et le témoignage sera assuré. Et tout ira bien. Et ainsi, le Seigneur sera honoré. Et ainsi, on rêve. N'est-ce pas? On rêve à cela. Est-ce que c'est cela dont il s'agit, que d'être heureux? Si l'Église de Dieu est remplie de gens qui ont des désirs égoïstes, où ils ne songent qu'à leur propre bien-être, alors elle a raté le but. Et elle est disqualifiée complètement devant Dieu. Le problème, je crois, de l'Église moderne... Je vais fermer. Parce que je suis en train de m'envoler. Ben oui, maintenant... Hein. Si je peux vous faire rire, alors je suis heureux. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que je crois qu'elle a perdu sa vocation première, sa vocation apostolique, ce caractère particulier qui était le sien au début. On va lire dans Actes chapitre 2, on va rappeler comment il vivait. On sait que les chrétiens, la majorité des chrétiens dans le monde, souffrent, n'est-ce pas? Ils vivent de grandes souffrances, quotidiennement. Et les premiers chrétiens n'ont pas vécu dans la facilité, bien au contraire. Mais leur quotidien, c'était celui-là, au verset 41 du chapitre 2. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient la propriété et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On a la coutume de dire que, oui, c'était une effusion particulière du Saint-Esprit et que, de ce fait, les choses étaient beaucoup plus vivantes qu'aujourd'hui. C'est peut-être un peu rapide comme explication. Les hommes et les femmes de Dieu, au début, étaient une église, était composé de vrais serviteurs et servantes de Dieu. Je ne dis pas que nous ne sommes pas vrais, mais qui avaient décidé que quotidiennement, leur vie serait remise entre les mains de Dieu et que quotidiennement, leur désir était d'accomplir la volonté de Dieu. Ils ne visaient pas à ce que leur vie s'améliore. Ils ne cherchaient pas à faire que leur vie soit meilleure. Ils cherchaient à ce que Dieu soit honoré et glorifié. C'était la seule chose qui les intéressait, et c'était ce pourquoi ils étaient réunis. Jésus a dit dans les évangiles, « Si votre justice ne dépasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'êtes pas dignes du royaume des cieux, c'est ça? Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. » L'apôtre Paul, dans Romains 11, dit que la fonction de l'Église, c'est de faire en sorte qu'elle excite la jalousie des Juifs. Et si vous mettez ces deux versets en parallèle, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez un peuple qui possède la religion la plus proche de la vérité. Vous avez des gens qui pratiquent une religion qui est proche de ce que Dieu souhaite. Ils sont, pour certains d'entre eux, au top. Mais vous, l'Église, vous avez une charge et une fonction. C'est de rendre ces gens jaloux de la façon dont vous-même, vous avez compris et vous vivez l'Évangile. Les premiers chrétiens étaient des chrétiens qui avaient choisi le camp de Dieu de façon radicale. Ils avaient refusé le compromis. Ils avaient refusé de servir Dieu un peu et de se servir eux beaucoup. Ou même de servir Dieu beaucoup et de se servir eux un peu. Ils avaient donné à Dieu toute la place. Ils s'étaient descendus du trône, de leur propre gloire, et ils avaient laissé le chemin ouvert à Dieu afin qu'il s'assied lui-même sur le trône de leur vie et qu'il gouverne. Et ainsi était composée l'Église apostolique. Et ainsi, si nous voulons être dignes d'être appelée l'Église apostolique, ou les successeurs de cette Église-là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle change, eh bien, il est nécessaire que les choses soient rendues de la même manière. Que Dieu, dans chacune de nos vies, puisse être assis sur le trône de nos vies, et que nous puissions, lui, le contempler en train d'agir. Aussi, l'Église est très préoccupée aujourd'hui par les problèmes éthiques. Qu'est-ce qu'il est bien de faire? Qu'est-ce qui n'est pas bien de faire? Ce qui est bien de faire, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus humain. Ce n'est pas nécessairement ce qui paraît le mieux et le plus approprié dans les circonstances, le plus rationnel. Ce qu'il est bien de faire, c'est la volonté de Dieu en toutes circonstances. Et là, on peut être en difficulté, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit d'éthique. Seuls entreront dans le royaume des cieux ceux qui font la volonté de mon Père. Autrement dit, il n'y a pas de place pour l'incohérence dans la vie du croyant. Il n'y a pas de place pour un partage savant entre sa propre vie et la vie de Dieu. Il n'y a pas de place pour une dichotomie. C'est quelque chose qui est un et qu'on veut séparer en deux choses. Il n'y a pas de place pour cela. Il n'y a une place uniquement pour Dieu. Ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas premièrement des réunions, des prédications, ou même de l'évangélisation, mais c'est que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu. Et là, je pèse mes mots et je répète, des hommes et des femmes de Dieu. On a trop l'habitude d'entendre ça, serviteur de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, et on ne sait pas ce que ça signifie. Ce sont des gens qui ont rallié le camp de Dieu. Dans Matthieu 12, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Des hommes et des femmes qui sont des frères et des sœurs pour Dieu, au même titre que Jésus, et qui travaillent avec Jésus-Christ. Dieu nous connaît. Le malin nous connaît aussi. Parce qu'avant d'appartenir au Seigneur, nous lui appartenions. Et donc il nous connaît bien. Ce qui nous rend faibles face au malin, c'est justement qu'il nous connaît bien. Et nous pouvons nous dire, nous sommes des chrétiens qualifiés. Nous pouvons nous dire, nous sommes des chrétiens puissants. Si c'est le cas, alors le malin le saura, et il dira oui. Si ça n'est pas le cas, il le saura aussi. Et il dira, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, qui es-tu? Quelle autorité as-tu? n'est-ce pas? C'est une histoire qui s'est déroulée dans les Actes, où certains voulaient chasser les démons. Si nous sommes fils de Dieu, alors nous faisons mal à Satan. Si nous ne sommes pas fils de Dieu, alors c'est Satan qui nous fait mal. Satan va diriger ses attaques vers ceux qui se tournent vers le Seigneur, vers tous ceux qui ont l'intention de suivre, de le quitter pour suivre Jésus-Christ. Satan va diriger ses attaques vers tous ceux qui ont franchi le pas et qui suivent et qui servent fidèlement le Seigneur. Son objectif, c'est de les faire chuter. Oh, il sait qu'il ne pourra pas les rallier à lui. Mais c'est de les faire chuter pour que le nom de Jésus soit sali, pour que le règne de Dieu soit entaché par les salissures qui sont liées à la chute du croyant. Et si ça c'est le cas, alors nous ne rendons personne jaloux. Si les croyants chutent, si les croyants sont faibles, alors vous aurez un juif religieux qui va vous observer et qui va dire « Mais ta vie est bien plus terrible que la mienne. Ta famille est bien moins ordonnée que la mienne. Ton comportement est terriblement mauvais par rapport au mien. Qu'est-ce que tu as à m'apporter ?» De plus. Qu'est-ce que tu peux bien vouloir me donner en plus? N'est-ce pas? Jésus parlait là d'un standard, de quelque chose que l'homme ne peut pas atteindre par lui-même, mais que Dieu a décidé de mettre en place dans son Église pour exciter la jalousie de tous les religieux qui vivent de façon élevée, sur des standards très élevés de qualité de vie. Et ça, ce témoignage-là, Satan veut le détruire. Parce qu'il sait que ça va retarder l'agrandissement de l'Église. Le croyant n'est pas sans réponse face aux attaques du malin. Alors, contrairement à ce que beaucoup préconisent, il ne s'agit pas d'entrer dans un combat, une lutte contre Satan, parce qu'elle est perdue d'avance. Aucun homme ne peut résister à Satan par lui-même. Il sera défait immédiatement. Mais Dieu veut nous apprendre à développer des formes de résistance. Qui sont prévus dans l'Église. Des combats qui ne sont pas menés tout seuls, en solitaire. On voit que les premiers chrétiens se réunissaient. Ils vivaient leur vie ensemble. Si chacun vit séparément, à des années-lumière de distance, Satan peut les isoler et les tenter séparément. Mais s'ils vivent ensemble, je ne dis pas les uns sur les autres, mais ensemble dans le sens où ils se voient fréquemment, ils se réunissent, ils se parlent, ils se confessent leurs péchés les uns aux autres, s'il y a quelque chose de difficile aujourd'hui dans l'Église, c'est ça. Se confesser ses péchés les uns les autres. Et quand on ne le fait pas, on laisse toute la latitude à Satan pour agir dans sa vie. Si on le fait, alors deux ou trois personnes se réunissent dans le nom de Jésus. Jésus est au milieu d'eux et Satan s'en va. Mais malheureusement, ce genre de choses-là ne se pratique pas parce qu'il y a une forme de honte. une forme de peur, une forme de crainte. Et si l'Église ne parvient pas à restaurer ces choses, ces pratiques, alors elle est en danger de disparaître. Je ne parle pas de nous spécifiquement ici, mais de façon générale. L'Église se trouvera disqualifiée peut-être. La société va la pointer du doigt. Elle va la trouver étrange. Et au fil du temps qui passe, on s'aperçoit du décalage qui se crée, n'est-ce pas ? Il y a aujourd'hui des choses qu'on croit, que tout le monde croyait à l'époque, qu'on est presque plus libre de croire aujourd'hui. Jésus est le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. C'est déjà quelque chose qui est interdit de dire aujourd'hui. Et c'est déjà quelque chose que dans certaines églises, on n'entend plus. J'aimerais continuer avec une histoire qui est un peu celle de... Comme Michael racontait un peu, mais qui est un peu plus biblique. Enfin... Ça n'enlève rien du tout à l'aspect spirituel des choses chez Michael. Ah, oh, c'est bien, c'est gentil. Dans Genèse 39. Qui va illustrer un peu mes propos faits jusqu'à présent, les propos un peu généraux. Je vais lire le chapitre 39 en entier, c'est pas très long. Et on aime lire la Bible, n'est-ce pas ? On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, vous savez donc que Joseph a été vendu par ses frères aux Ismaélites. Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit dans sa maison, sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi !» Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. » Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voici ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Quelle histoire sordide, n'est-ce pas? Mettez-vous à la place de Joseph un instant. Il vient de subir une période terrible dans sa vie, n'est-ce pas? Il a été pris par ses frères, presque tué. Ses frères étaient jaloux de lui. Et finalement, plutôt que de le tuer, ils ont fait de l'argent avec. Et ils l'ont vendu aux Ismaélites. Et alors que tout commençait à aller mieux dans sa vie, alors que l'Éternel le bénissait, n'est-ce pas, Thiago? L'Éternel le bénissait. Eh bien, voilà un événement qui vient tout mettre en l'air. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur une phrase. La femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Quand on est esclave, quand on est loin de sa patrie, quand tout le monde pense que vous êtes mort, que votre existence n'a plus aucun sens, si ce n'est que de continuer à rester en vie, on ne sait pourquoi, alors, quelqu'un vient et vous regarde et vous dit: tu es un beau garçon. Tu es désirable. Couche avec moi. On peut transposer ça. Si quelqu'un d'entre nous était là à son travail et que le téléphone sonnait et de l'autre côté il y a Sarkozy et qui dit: oh, tu sais, j'ai entendu parler de toi. On m'a dit que tu étais un très bon employé, que tu es une bénédiction pour ta compagnie. J'aimerais que tu viennes travailler avec moi. Vous avez beau pas eu voté Sarkozy, c'est tentant, n'est-ce pas? Cette femme a dit à un homme qui était dans la détresse, un homme qui était déraciné: je t'ai remarqué. Moi, je ne suis pas comme tous ceux qui sont là autour de toi. Moi, je t'ai remarqué. Tu as quelque chose qui me plaît chez toi. Je veux de toi. Tu n'es pas abandonné à ton sort. Tu comptes pour moi. Tu as de l'importance pour moi. Parce que elle lui a pas tout de suite dit: couche avec moi. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, au verset 10. Tous les jours, elle était proche de lui pour le persuader et lui faire comprendre ses intentions. Tous les jours. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans la place de Joseph un seul instant et dire que vous auriez refusé cette offre? Que jour après jour, alors qu'elle essayait de le convaincre, et que lui qui n'était plus rien, commençait à redevenir quelqu'un, est-ce que vous auriez résisté? Pourtant, Joseph a refusé d'être sensible à l'importance que lui donnait cette femme. Il ne savait pas ce que ça allait produire comme effet. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a refusé. Il a refusé quels que soient les effets que cela pouvait avoir sur sa vie. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu ? Voilà quelle était sa réponse. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? C'est ça le secret de Joseph. C'est qu'il ne vivait pas avec les pieds sur terre. Il vivait dans les cieux. Il était auprès de Dieu. Et le fait qu'une femme trouve qu'il était beau et qu'elle ait eu envie de coucher avec lui n'avait aucune importance. Il avait vu quel péché il ferait vis-à-vis de l'homme, déjà, qui lui avait fait confiance. Mais surtout vis-à-vis de Dieu. Parce que c'était Dieu qui lui donnait sa valeur. Il n'avait pas besoin qu'une femme vienne lui dire qu'il était beau. Déjà, il le savait. Et en plus, Dieu était présent dans sa vie. Et jour après jour, il savait qu'il était important aux yeux de ce Dieu-là. Et qu'il était utile qu'il reste en vie. Une deuxième fois, verset 12, la femme se fait plus violente. Elle en a assez d'attendre. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Elle a crié. Elle a crié et je me suis posé la question « Mais est-ce que c'est cette femme qui a crié ?» Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond en elle qui a crié ? Parce que finalement, dans cette histoire, l'esclave, ce n'était pas Joseph. C'était cette femme. Elle a été esclave de ce qui en elle lui disait de dire « Couche avec moi ». Il y avait dans son être une voix qui disait « Couche avec lui ». Et elle traduisait en disant « Couche avec moi ». Vous comprenez ? Elle était esclave du malin. Esclave du prince des ténèbres. Qui lui disait, couche avec lui. Et elle, quand elle le voyait, elle lui disait, couche avec moi. Est-ce que vous avez entendu le péché frapper à votre cœur, vous demandant de coucher avec lui? Est-ce que vous l'avez entendu jour après jour, vous tenter, jour après jour, vous dire « Mais ta vie n'a aucun sens, ta vie n'est pas belle, pourquoi es-tu là ?» À quoi tu sers ? Et ta routine ? Et ceci et cela ? Et un jour, il se saisit de vous violemment et il vous dit « Couche avec moi !» N'est-ce pas ? Et si on dit oui, il y aura des bénéfices. Il y aura des bénéfices parce que c'est sûr que Joseph aurait eu des bénéfices immédiats. Il aurait même pu essayer de jouer sa liberté avec ça. Essayer. Mais il pouvait l'espérer. Est-ce que la compromission nous apporte des bénéfices. Est-ce que de nous compromettre avec le péché, ça nous apporte des bénéfices? Alors si vous le croyez, sachez que ces bénéfices-là ne dureront pas. Parce que ces bénéfices vont vous emmener directement en enfer. Votre vie va devenir un enfer. Là, vous pensiez que vous aviez gagné quelque chose, vous allez réaliser que vous avez tout perdu. Le regard de Dieu que vous saviez poser sur vous va se voiler. La parole de Dieu que vous pouviez entendre et qui vous faisait du bien va disparaître. Et là, vous pensiez que vous étiez abandonné. Là, vous pensiez que Dieu ne vous répondait pas, qu'il se moquait de vous, qu'il ne vous aimait pas. Là, vous pensez que Dieu vous faisait souffrir. Eh bien, vous allez découvrir que votre vie va devenir un réel enfer. Et c'est là la marque du prince des ténèbres, lorsqu'il vous saisit avec violence. Et qu'il vous crie, couche avec moi. Cette femme, c'était un cri de désespoir dans son être. Le désespoir qui est présent dans les profondeurs de l'enfer. Et c'est cela qui nous demande de nous compromettre. C'est cela qui vient pour lutter contre l'Église. Et amener le chrétien, le croyant, à vivre une vie partagée. Une vie à cheval sur la vérité et sur ses intérêts personnels. Joseph a refusé. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Vous savez que sa vie ne s'est absolument pas améliorée après cela. Sa vie est devenue encore un peu pire. Sa vie est devenue pire encore. Mais Dieu avait un plan pour lui. Mais pas seulement pour lui, pour l'histoire de l'humanité. Laissez-moi vous lire. Je suis en train de passer plein de choses, je suis désolé, mais... Genèse 45, c'est l'épisode où Joseph retrouve ses frères. Il se redécouvre là et écoutez ce qu'il leur dit. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est presque comme s'il leur avait dit, vous avez bien fait. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. J'espère que Michael n'est pas en train de s'imaginer qu'il va devenir président de la République, mais pourquoi pas, après tout. Au moins, on saura pour qui voter une fois, n'est-ce pas? Je sais que dans la parole, c'est marqué à un autre endroit que David était... Joseph, j'ai du mal. Même quand je préparais, j'étais toujours en train de mélanger les deux, mais on aime les deux. Mais c'est Joseph, là, en l'occurrence. Il est dit que la seule différence qu'il y avait entre lui et Pharaon, c'était le trône. Mais en réalité, il était bien supérieur à Pharaon. Même le trône. C'est que Dieu était présent dans sa vie. Et c'est Dieu qui avait été à l'origine de toutes les circonstances. Mais ça n'a été possible qu'à la seule condition que Joseph refuse de se compromettre. Peut-être que les choses ne se seraient pas si mal passées que ça pour Joseph. Je ne sais pas s'il avait accepté la compromission. Et une chose est sûre, c'est que ça n'aurait pas donné ce résultat-là. Pour que vous vous compromettiez, pour que vous fricotiez avec le péché, Satan va user de violence. Il va chercher à vous attraper par tous les moyens. Et il va vouloir vous faire peur. Il est cruel. Il est sanguinaire. Il est mauvais. Et ce qu'il veut, c'est que vous tombiez dans le péché. Il ne veut pas que vous restiez pur. Il ne veut pas que vous continuiez dans la pureté en recherchant à faire la volonté de Dieu jour après jour. Il n'en veut pas, il n'en veut pas, il n'en veut pas. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir et il utilisera toutes vos faiblesses et toutes vos désobéissances pour vous faire chuter. Rapidement, Joseph a fait quelque chose. Il n'est pas juste resté là. Il n'a pas argumenté. De toute façon, il ne pouvait pas. De toute façon, elle lui avait pris son vêtement. Donc elle avait pu dire à tout le monde, regardez, regardez ce qu'il m'a fait. Et là, on voit le plan du malin. Parce que ça l'intéressait pas que de créer une situation adultérine juste pour cela. Ça ne l'intéressait pas. Il n'était pas inquiet de savoir que Joseph allait coucher avec cette femme et tout. Ça, c'était pas le problème. Ce qu'il voulait, par-dessus tout, c'est que Joseph soit discrédité et que par là Dieu soit discrédité. C'était ça le plan du malin. Et là, avec cet habit, eh bien, il pensait que c'était fait. Parce que, on s'aperçoit qu'elle ne l'aime plus là, du coup, n'est-ce pas? Elle n'est plus en train de lui dire « Ah, il est beau !» Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Elle n'était même pas honnête. Elle lui avait pris sa tunique. Vous me direz, Joseph commençait à être habitué qu'on lui prenne sa tunique, n'est-ce pas? On lui en avait déjà pris une. Alors, ça prouve au moins qu'entre deux, il en avait trouvé une autre. Qu'est-ce que dit Jésus à propos de la tunique? Si on veut vous prendre votre robe, donnez aussi votre manteau. Satan veut vous prendre le peu que vous avez. Et vous, vous allez lutter pour le garder. Vous savez qui lui avait remis cette deuxième tunique ? Les gens qui l'avaient en esclavage. Il avait été revêtu par des gens qui le tenaient pour esclave. Eh bien, si Satan vous tient en esclavage et qu'il veut reprendre la tunique qu'il vous a mise sur le dos, eh bien, laissez-la lui. Ne résistez pas. Laissez-lui sa tunique. C'est la sienne. Et alors, aussi nu que vous êtes, allez devant le trône de la grâce. Allez devant Dieu. Et lui va vous revêtir d'un vêtement. Un vêtement spécialement fabriqué pour vous, qui vous ira merveilleusement bien. Et que personne ne pourra vous retirer cette fois-ci. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Il avait laissé sa tunique à la femme. Il a reçu des habits de roi. Ça, c'était la première des actions qu'a accompli Joseph. Il a abandonné ce que le malin lui-même avait mis sur son dos. La malédiction qu'il avait sur son dos. Les peurs, les craintes. Tout ce qui venait assombrir son tableau journalier, il lui a laissé. Il lui a laissé. Et il a fait complètement confiance à Dieu. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Et ça, c'est la deuxième chose. Il est parti. Il est parti en courant. Il est sorti de la situation. Il a coupé le lien en fuyant. Je vais vous lire un verset qui parle dans ce sens, dans Jacques. Chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Je vais commencer avant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Résistez au diable. C'était la même chose que Dieu avait demandé à Caïn. Avant qu'il soit le meurtrier de son frère, il lui avait dit « Résiste, fais bien et tu seras élevé, tu sauras dominer la situation, fais le bien. Sinon le péché est tapis à ta porte et c'est lui qui dominera sur toi. » Le Seigneur connaît nos vies. Il connaît les circonstances de nos vies parfaitement. Il n'y a pas, comme le disait Thiago, un seul instant, un moment où il ne nous bénit pas. Parce que Dieu n'est que bénédiction. C'est pas parce que nos émotions nous disent le contraire que nous ne sommes pas bénis. Le malin va nous tenter au travers de nos émotions. il va vouloir que nous choisissions la voie de la compromission. Que nous entrions dans une vie partagée entre Dieu et les autres choses. Le Seigneur Jésus souhaite que nos vies soient recentrées sur Dieu. Que nous vivions, que nous respirions, que nos projets, que nos pensées d'avenir soient uniquement fixées sur Dieu et sur la glorification de son nom. Ce que je dis là est complètement insensé pour le monde. Ça n'a aucun intérêt. Qui est-ce qui voudrait vivre comme cela? À quoi ça sert? Si l'Esprit de Dieu ne vous a pas touché dans votre cœur, ça ne sert à rien. Je suis d'accord. Si l'Esprit de Dieu vous a touché déjà et que vous savez que vous êtes dans la compromission, alors je vous demande avec insistance d'abandonner cette tunique à la femme, à celle, à celui qui vous propose de coucher avec, de lui laisser cette tunique et de vous présenter nu comme un ver devant le trône de Dieu, afin qu'il puisse vous revêtir lui-même d'une tunique blanche, lavée dans le sang de l'agneau. Seigneur Jésus, je veux te remettre chacun d'entre nous, afin, Seigneur, que tu parles au cœur, que tu convainc de péché, de justice et de jugement, que tu convainc aussi de ton amour, et ta capacité à sauver. Seigneur, que là où on voit les choses avec un regard terrestre, tu puisses mettre, Seigneur, le regard de Dieu, que nous puissions avoir les idées claires et justes sur ce que nous sommes et comment nous vivons la foi. Seigneur, que tu puisses venir comme celui qui délivre son peuple. Seigneur, et que tu puisses nous amener dans des lieux élevés. Seigneur, dans la connaissance de Dieu. Là-haut, sur les trônes, où finalement nous régnons avec toi, et où les princes de ce monde n'ont plus rien à voir, où les attraits de ce monde n'ont plus rien à voir, où les envies de ce monde disparaissent. Seigneur, tu veux un peuple mis à part, un peuple qui rend les autres jaloux. Un peuple qui te connaît si bien, qui n'est plus en train de se poser les questions de faire ta volonté jour après jour. Un peuple qui te rencontre régulièrement. Un peuple qui se parle, qui confesse, qui se repent. Un peuple qui t'aime tout entier. Seigneur, je demande que l'Esprit de Dieu fasse cela dans cette Église, dans chacun de nos cœurs. Et partout, Seigneur, où il y a des cris sincères, partout où il y a des personnes repentantes, Seigneur, que ton esprit puisse agir et répondre aux cris des cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen.